batzuk horrela dira. Aldakigu gure eroen izena, fangaitezke haien hiletara.
Bonjour tout le monde, Spectaculaire commence aujourd'hui, ce mercredi 18 mars 2015. Christophe Rollin au micro, Gérald est également dans le studio, mais l'équipe du théâtre de l'Aquarium va arriver pour parler justement du programme d'aujourd'hui, pour parler de cette pièce Place Royale de Corneille. Corneille est plutôt jeune, 1634, il a à peine 28 ans, mort en 1684. Donc bref, cette pièce est donnée au Théâtre de la Croix-Rousse de ce mardi 27 mars, 17 mars c'était hier, jusqu'au vendredi 27 mars de la semaine prochaine. C'est à 20h tous les soirs, samedi ou dimanche, c'est peut-être un peu plus tôt, quoique non, ils font relâche dimanche et lundi. Voilà, donc normalement, l'équipe, ils sont en train d'arriver, Frédéric Révérend notamment, qui est à la dramaturgie, pour nous parler de cette pièce. Sinon, eh bien, nous aurons d'autres choses à évoquer, des comptes rendus peut-être, le festival Jardin Mystérieux, Basson Plein à l'Opéra de Lyon, et c'est assez fascinant, assez stupéfiant. Voilà, nous commençons avec une musique très thématique. Gérald s'est dit, faisons dans les relations amoureuses compliquées. Donc nous commençons avec Boris Vian, je crois. Voilà, nous écoutons Boris Vian et nous continuons jusqu'à 15h comme tous les mercredis, émission 59, je crois. Vous nous écoutez sur Radio Canu, le 102.2 de la bande FM à Lyon, ou bien radiocanu.org si c'est sur Internet.
Mon cœur s'est pris à tes épaules. Mon cœur s'est pris à tes yeux gris. Le soleil s'est éteint et la neige est tombée. J'ai si froid sans mon cœur. Rends-le-moi. J'ai si froid sans mon cœur. Rends-le-moi, ne le mets pas dans une cage. Il va mourir comme l'amour. Laisse-moi courir les rues. Laisse-moi vivre au fil des jours. J'ai mis le bonheur à la porte et j'ai brisé tous ses anneaux. J'ai laissé les baisers, j'ai cassé les serments et j'enferme mon cœur avec moi. Demain, je serai libre dans le silence de ma vie. Me prendre à l'hasard m'aimera. Et j'enferme mon cœur avec moi. Je serai libre dans ma cage. Je serai libre avec mon cœur. Et j'irai courir les rues de rêve. Où vont mes amours?
Et voilà, les invités prennent place. Alors, on va écouter une autre piste. On va écouter autre chose, Gérald. On va écouter. Non, zut, c'était pas Boris Vian qu'on écoutait à l'instant. C'était autre chose. Nous allons écouter cette fois-ci, je sais pas, un CD d'extra. Non, Gérald, tout est coupé. Il n'y a que moi qui parle pour l'instant. On va s'installer, on a du temps, on a jusqu'à 15 heures pour parler, donc je lance un autre morceau, toujours avec cette thématique de la place royale, la pièce de Corneille qui est donnée ces jours-ci au théâtre de la Croix-Rousse. Voilà, je lance CD de Boris Vian. Gérald, cette fois-ci, c'est la piste 18, on dirait. Ne vous mariez pas, c'est ça? Bon, on va pouvoir en parler avec Alidor qui est présent. Il y a également Phyllis, je reconnais. Voilà, hop. Eh bien, nous écoutons encore un peu de musique, le temps d'accueillir nos invités pour la place royale de Corneille qui est donnée de ce 17 mars jusqu'au 27.
Avez-vous vu un homme à poil sortir soudain de la salle de bain, dégoulinant partout les poils et la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au poing, l'air abruti de la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Faites plutôt du cinéma, restez pucelle chez votre papa. Devenez serveuse chez un bougnat. Élevez des singes, élevez des chats. Vendez des boîtes de chocolat. Prenez le voile ou le prenez pas. Dansez à poil pour les gagas. Soyez radieuse, avenue du bois. Mais ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Avez-vous vu un homme gêné rentrer trop tard pour le dîner? Du rouge à lèvres sur son col, du flageolant dans la guibole. Avez-vous vu au cabaret un monsieur qui n'est plus très frais se frotter avec insistance sur une petite fleur d'innocence? Quand ils sont bêtes, ils vous embêtent. Quand ils sont forts, ils font du sport. Quand ils sont riches, ils gardent l'artiche. Quand ils sont durs, ils vous torturent. Ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Mettez vos robes de gala, allez danser à l'Olympia, changez d'amant 4 fois par mois. Prenez la braise et gardez-la, cachez la flèche sous vos matelas. À 50 ans, ça servira à vous payer des beaux petits gars. Rien dans la tête, tout dans les bras. La belle vie que ça sera, ne vous mariez pas. Surtout, ne vous mariez pas. Les filles.
Et voilà, nous écoutions à l'instant Gérald. Ah, purée, punaise, encore des Larsen. Mais non, ça va bien se passer. Mais non, ça mais nous ne savons pas, nous verrons comment ça se passera. Bref, Gérald, allez, sois avec moi pour accueillir. Donc, moi, ce que je connais, ce sont les noms de la distribution. Nous avons donc Alidor avec nous. Nous avons aussi... Phyllis, je m'apprêtais à dire Lysis, non, peut-être d'ailleurs Corneille a-t-il fait exprès de mettre ses noms un peu proches. Et puis surtout, nous accueillons également Frédéric Révérend. Je maîtrise mal la terminologie de votre fonction, c'est assistant à la mise en scène, dramaturge ou...
Ça s'appelle dramaturge en fait. Alors c'est évidemment un petit côté prestigieux, dramaturge, parce que normalement c'est réservé à ceux qui écrivent les pièces, mais ça fait à peu près 2 siècles qu'on a inventé cette fonction-là dans les théâtres. C'est quelqu'un qui veille à ce que la mécanique de spectacle fonctionne, à ce que la langue que crée le metteur en scène, la langue, c'est pas seulement la langue des mots, hein, c'est aussi la langue de ce qu'il fait en mise en scène, de ce qu'il produit, que tout ça fasse sens, ça s'ouvre, ça tienne la route, qu'il y ait une certaine cohérence et des incohérences qui soient maîtrisées. Enfin voilà, et puis c'est une sorte de double pilotage en fait sur une création comme dans un avion. Voilà, mais pour l'instant je suis très admiratif du papier journal que vous mettez sur les micros pour empêcher le Larsen, ça je trouve ça formidable.
c'est bien le...
Ça c'est un beau métier aussi.
Frédéric Révérend, ce qui est très bien c'est qu'au moins vous êtes présent, alors que François Rancillac qui est le metteur en scène, lui ouais. n'est pas...
Oui, ça c'est scandaleux, c'est le là, ça c'est vraiment il dépêche un dramaturge à sa place. Non, c'est parce qu'il est... c'est la rançon du succès, il enchaîne les mises en scène et là actuellement il est en plein sur une création et donc malheureusement il est déjà venu à Lyon
en
préparation je sais pas s'il a le temps mais en tout cas il nous vous suis de très près. Et puis voilà, il m'a envoyé aussi pour que, d'une certaine manière, je lui raconte un peu comment les choses se passent. Ce qui est d'ailleurs en partie ma fonction, parce que pendant les répétitions, ce que je fais, c'est que je raconte ce que je vois. En fait, j'ai du papier devant moi, j'ai des pages et des pages et des pages que j'écris. Et puis il les lit et il les lit pendant la mise en scène et ou après ou avant. Et puis en fonction de ça, voilà, ça peut lui ouvrir une porte ou réorienter une chose ou conforter quelque chose, une idée qu'il a.
Alors, nous allons beaucoup bavarder pendant toute cette émission. Gérald, nous pourrons également écouter un peu de musique, mais pour tout de suite faire participer nos autres invités, quels sont donc Frédéric Révérend, ou alors peut-être plutôt pourrais-je demander Christophe et vous, Linda, quelles sont les relations entre les comédiens et le dramaturge? Non pas justement le metteur en scène, mais le dramaturge. Vous le rencontrez un peu, vous le voyez, ou alors vraiment son travail est davantage en amont, ou alors est-il tout de même présent? Là, concrètement, il est au Théâtre de la Croix-Rousse actuellement. D'ailleurs, sera-t-il également, faudra demander à Sonia s'il sera présent au bord de scène qui a lieu, le bord de scène, je crois que c'est peut-être ce soir ou demain, je vérifierai toutes les choses. C'est ce soir, le mercredi donc 18 mars. Donc Christophe, Linda, donc voilà, Christophe, j'ai retrouvé la bonne distribution. Christophe Lapara, vous êtes Alidor et Linda Shaib, vous êtes Phyllis. Donc vos relations avec Frédéric Révérend, comment
Elles sont très mauvaises.
Elles sont très mauvaises. On reconnaît bien la Phyllis de la pièce.
C'est catastrophique, moi je suis.
J'avais très peur de cette question et je crois que j'avais raison.
Avant
la confusion qui règne.
Ils m'ont mal compris. Je n'ai pas demandé quelle était la qualité de la relation. J'ai seulement demandé quelle était la relation. Les comédiens doivent-ils travailler? Enfin, est-ce qu'il y a un impératif ou justement non? Enfin, vous pourriez tout à fait répondre. Non, on le voit peu parce que voilà, il gratte du papier. Enfin, je n'en sais absolument rien. C'est d'ailleurs bien le but de lancer une question, c'est qu'on ne connaît pas la réponse, il me semble. Linda, Christophe.
Mais peut-être que pour chacun des comédiens, c'est différent. En tout cas, dramaturge et assistant à la mise en scène, c'est ce qu'il a été Frédéric. C'est dès que c'est à la fois une présence très discrète, parce que le premier interlocuteur qu'on a, c'est le metteur en scène. Donc Frédéric est suffisamment discret et attentif pour pouvoir glisser des choses à l'oreille du metteur en scène et non à l'oreille de l'acteur. Ce qui est quand même beaucoup plus moins perturbant. Voilà.
Et concrètement, Frédéric a été là du premier jour des répétitions au dernier. À la table, etc. On a eu avant vraiment le début des répètes au plateau, on a eu d'abord une semaine entière de répétition à la table, de travail à la table, où on défriche les choses, le texte. Et Frédéric était déjà là, il accompagne le travail et il était aussi régulièrement sollicité pour nous apporter des précisions sur des textes historiques ou sur des choses propres à des termes dans le texte, notamment sur la notion de l'amour à cette époque-là, sur plein de choses de ce genre-là. C'est le travail du dramaturge, et donc il est là en permanence. Et ensuite, quand on a commencé les répétitions au plateau, Frédéric était dans la salle et à un moment donné, il a trouvé sa petite place en haut avec sa lumière, effectivement. Donc il écrivait pendant que ça répétait, etc. Et on le voyait régulièrement descendre et déposer une feuille au metteur en scène avec toutes ses notes. Et après, c'était dans le secret des dieux. Nous ne savions pas ce que François faisait ou ne faisait pas de ses notes, ce qu'il en restait ou pas. Mais voilà, donc il y a eu sa présence est là depuis le début. C'est ce qui fait aussi que il accompagne le spectacle puisqu'il a pu en voir toute la.
Mais si c'était pas un métier, en fait, ce serait premier spectateur du spectacle, en fait, parce que.
Ouais.
Au fond, le metteur en scène, il est spectateur de son propre spectacle, mais enfin, il est en train de travailler dessus, donc il a pas toute la liberté de le regarder ou de ne pas le regarder. D'ailleurs, moi, c'est la liberté que je prends. Je regarde, je regarde pas. Mais je suis un spectateur d'une certaine façon, mais un spectateur, on pourrait dire professionnel, quelque sorte.
Pas le recul nécessaire. Est-ce qu'on pourrait comparer ça au statut d'assistant
Là où on peut cinéma? Pas le comparer au statut d'assistant. Ou... l'assistant de cinéma, c'est carrément un autre poste. Poste d'autorité en plus, mais c'est pas non plus tout à fait assimilable à l'assistant, parce que l'assistant, lui, il a les mains dans la technique, c'est-à-dire qu'il doit préparer des plannings, il doit organiser les répétitions,
il
doit noter la mise en scène, il fait un travail technique très important que là, en l'occurrence, je ne fais pas, justement pour garder un recul par rapport à ce qui se passe. Donc je ne suis pas au travail à proprement parler, c'est-à-dire en train de façonner, de faire au moment où les répétitions ont lieu, ce que l'assistant doit faire.
Et alors, quel rapport avez-vous au texte? Parce que j'ai parlé tout à l'heure de cette expression, j'ai employé en amont, j'ai dit en tout début d'émission que c'est une pièce du jeune Corneille. Je me suis un peu renseigné, né en 1606, et bien en 1634, a priori il a 28 ans. Et ce qui m'a un peu fasciné, c'est qu'il est mort en 1684. Il lui reste encore une cinquantaine d'années à vivre. Donc vous, je suppose que vous avez fait un travail sur le texte, comment dire, le texte lui-même, la correspondance peut-être qu'il avait à cette époque avec sa mère, son meilleur ami Racine, Molière ou je ne sais, pour justement parler de la pièce qu'il écrivait. Donc je pense que vous avez dû faire un travail dessus. Et c'est, enfin, ça ferait deux questions, puisque également les comédiens étant présents, moi j'aimerais bien savoir, peut-être sans avoir eu le même bagage que le vôtre, les mêmes recherches, quel rapport eux aussi ont-ils avec le texte, à la fois en plus au tout début lorsqu'ils le découvrent, puis ensuite lorsqu'ils se le mettent en bouche, parce que quel texte, il faudra en parler tout de même, c'est alexandrin. Donc tout d'abord à vous, Frédéric Véran, vous l'avez donc travaillé effectivement, c'est 1634, vous connaissez à peu près.
Oui.
Christophe parlait tout à l'heure,
oui,
du contexte.
Bien sûr.
Vous
avez... bien sûr. Bon, ben alors je ne vais pas répondre globalement à toute votre question, parce que ce serait très long, mais par exemple, 1634. Bon, et puis vous avez bien fait remarquer à peu près l'âge qu'il avait, hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sort de la jeunesse au moment où il écrit ça. Et pendant sa jeunesse, il n'a pas écrit encore les tragédies du tout qu'on connaît. Il a écrit des comédies, des poèmes, etc. C'est pas un dissident, c'est pas un garçon qui rue dans les brancards. Il est plutôt propre sur lui. C'est un Rouennais, voilà. Et il rentre pas tout à fait dans toutes les mouvements de jeunesse, on pourrait dire, de l'époque. Moi, ce qui m'a frappé beaucoup, et chacun cherche quand on a un objet aussi étrange que la Place Royale, parce que c'est bon, ou tout simplement une pièce de cette époque-là, parce que c'est compliqué, c'est dans une langue impossible, avec des vers, etc. Il faut bien saisir le pot par quelque chose. Il n'y a pas forcément, c'est pas forcément devant vous. Il faut savoir si on l'attrape, comment on l'attrape. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est de constater que, justement, en 1634, à cette époque-là, on est dans un mouvement de la jeunesse qui est très important, qui est en gros une revendication à être autonome, à être libre, à décider soi-même de sa propre vie, ce qui semble une étrangeté, voire quelque chose d'absolument scandaleux à l'époque. Donc il y a un meneur de tout ce mouvement-là, un meneur artistique qui est pas du tout Corneille, qui est un gars un peu plus âgé, qui s'appelle Théophile de Viau, qui a contre lui contre lui aux yeux de la bonne société, d'être homosexuel ou plus ou moins, enfin on dirait pas ça comme ça à l'époque. D'écrire des vers pas possibles dans une langue complètement déchirée d'une certaine façon, qui fait rien de ce qu'il faut et qui se retrouve en prison régulièrement. C'est le martyr de toute cette génération-là. Cette génération-là se revendique d'aller jusqu'au bout de ce désir d'être soi-même et d'avoir une liberté. Et d'une certaine manière, pour les gens qui entendent cette pièce en 1634, cette pièce qui parle de la jeunesse, elle parle d'une génération, en fait, avec des personnages dont on ne sait pas très bien, d'ailleurs, ce qui est le personnage principal. D'une certaine manière, Alidor, c'est presque le personnage le plus emblématique de tout ça. Parce que c'est aussi un peu un philosophe. Et en 1634, donc, on est en plein dans ce mouvement-là. Mais Corneille, lui, il est un peu distancié avec ça. Et puis, il quitte un peu cette jeunesse, lui. Et l'année suivante, ça sera terminé. Il n'écrira plus de comédie. Mais là, en quelque sorte, on pourrait dire, il règle un peu son compte, ou ses comptes, avec, à la fois, peut-être que lui-même a marché un petit peu dans cette philosophie-là. Peut-être qu'il prend de la distance avec, on ne sait pas. En tout cas, il décrit des gens qui vont jusqu'au bout de ça. Et alors, ça va nous permettre de passer au personnage, mais Alidor, c'est quelqu'un qui dit, bon ben voilà, il est philosophe, il en parle, il a lu des livres, hein, et il va les rejeter à un moment d'ailleurs, hein, mais il dit, bon, moi, je dois aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que l'amour ne peut pas être une prison, même l'amour ne doit pas être une prison pour ma volonté. Et donc, pour être sûr d'être vraiment sans attache, d'être vraiment libre, je vais aller jusqu'au bout. Je suis complètement accroché à cette fille depuis des années. Je peux pas, je vis à travers elle.
Angélique.
Oui. Angélique. Eh ben, je n'ai qu'une solution. Il faut que je rompe avec elle. Mais je vais la rompre comme ça. Il va falloir que je me rende désagréable pour qu'elle rompe avec moi. Et il va, à partir de là, on va rentrer dans une espèce de catastrophe avec des enchaînements multiples, hein, parce qu'on a fait, en fait, en quelque sorte, on a été au bout
de la chose. On croit à quelque chose et on va jusqu'au bout. Vous savez, un peu comme dans le film La Corde d'Hitchcock, où on croit que, après tout, faire un crime, c'est un acte poétique, il n'y a pas besoin de raison, etc. Vous savez, ce film, et puis, professeur, il a appris ça à ses élèves, il est tout surpris de voir les élèves qu'il met en pratique. Vraiment. Voilà. On est un peu quelque part par là. Voilà, mais je me tais parce que je suis un peu bavard.
Linda, vous qui êtes Phyllis, est-ce que Phyllis va également au bout? Moi, il me semble que le propos de Frédéric Révérend marche tout à fait pour Phyllis, qui finit peut-être par changer un peu, mais qui a une position qui est « je veux aller au bout de cette sorte de liberté d'être aimée par tout le monde et d'aimer tout le monde ». Enfin, disons...
Oui, en fait, elle dit... je pense que... Enfin, pour moi, elle est le pendant d'Alidor. Sauf que je pense qu'elle est beaucoup plus maligne que lui. C'est-à-dire qu'elle, elle dit... Elle prend en considération sa condition féminine de l'époque quand même, où on ne s'appartient pas, on appartient aux hommes, donc le père d'abord et ensuite le mari. Et donc elle dit, ma condition, de toute façon, elle finira comme pour toutes les femmes. Sauf que moi, avant d'en arriver à ça, je m'offre à tous, par le cœur, sans appartenir à personne, parce que forcément l'amour c'est douloureux. Donc pour pas souffrir... Eh ben, on s'offre un petit peu, un peu à chacun, un peu pour tous. On plaît un peu à tout le monde, un peu beaucoup, mais pas trop. Et puis, un jour, forcément, on va m'imposer quelqu'un, et puis je vais m'accommoder. Il aura forcément quelque chose qui me plaira. C'est ce qu'elle dit, quand même. Alors que lui, Alidor, lui, il dit, il va jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il va se cogner au mur. Enfin, pour moi, la fin, c'est dramatique. Il va se cogner au mur, il aura rien. Il finit seul, il a plus d'amis, il a plus personne, plus d'amour. Alors qu'elle, elle dit, je vais m'arranger. Et elle finit par s'arranger. C'est très étrange, mais elle s'arrange. On lui donne un mec, elle dit, ok, ça me va, j'y vais.
Si je peux me permettre, juste, elle est aussi dans une liberté, dans une forme de liberté. C'est-à-dire, c'est pas une liberté, c'est pas un compromis contre la liberté. C'est pas qu'elle souffre, non, qu'elle est obligée d'en rabattre. Au contraire, elle y va complètement. Elle s'ouvre à la vie telle qu'elle est. Mais sa liberté s'exprime là-dedans. C'est une liberté en quelque sorte, en ouverture, plutôt qu'une liberté qui dirait attention, moi. C'est quand même elle, au bout du compte. C'est quand même tout ça. C'est au service de son identité à elle.
Oui, mais parce que je pense que c'est pas elle n'a pas tellement le choix. Le choix, c'est d'arriver à se modeler pendant des années pour arriver justement à faire avec ça, à faire avec sa condition. Moi, je pense, c'est comme ça que j'arrive à m'arranger avec Phyllis. Même si parfois, même en jouant tous les jours, je me dis, purée, je ne sais pas où ils veulent l'emmener.
Alors, je précise juste pour qu'on soit d'accord. La liberté dont je parle, c'est la liberté, effectivement, de faire des contraintes, une sorte de tremplin pour être encore plus libre. C'est la liberté du galérien, vous savez. Vous êtes dans la galère, vous êtes obligé de ramer. C'est très dur, c'est très pénible, mais vous pouvez rien faire. Vous êtes obligé de le faire. Alors, qu'est-ce que fait le galérien? Eh ben, non seulement il est soumis à une règle épouvantable, mais il s'en invente une autre. C'est-à-dire qu'entre camarades, il faut pas faire ci, il faut faire ça. Il y a des lois à l'intérieur, comme il y a des lois à l'intérieur de la prison. Donc, on s'invente de nouvelles lois qui en fait, en théorie, nous enferment encore plus, mais qui en réalité nous permettent de nous évader. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez la loi du prisonnier, ça vous redonne une identité. Vous n'êtes plus la victime de quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce principe-là aussi de faire des contraintes une sorte de possibilité de rebondir et de trouver une vraie liberté.
Vous la trouvez, cette liberté, Christophe Lapara, vous qui êtes Alidor? J'étais en train de me dire, le personnage principal peut-être, certes, enfin du moins on est peut-être revenu sur cette notion, mais vous l'avez dit aussi Linda tout à l'heure, hors antenne, y a-t-il vraiment un personnage principal? Ne seriez-vous peut-être pas, à défaut d'être le personnage principal, le mauvais personnage, le bad guy, disons celui qui ne s'en sort pas très bien, la pièce se termine avec vous? Donc vous disiez Frédéric Révérend qu'il est emblématique, ah ben là pour le coup, la pièce se termine avec lui, il quitte la scène et... Rideau, voilà, la pièce s'arrête. Cette liberté, ou disons, enfin, tous ces propos, moi, ma question originelle, c'était le rapport avec le texte. Et c'est peut-être un peu ce que disait effectivement à l'instant Linda, le texte, mais aussi qui passe par le metteur en scène, où est-ce qu'il veut nous emmener quand il nous demande de faire telle ou telle chose. Donc vous, Christophe Lapara, qui êtes Alidor, donc dans cette pièce, Place Royale de Corneille.
Alors, il y a plusieurs... plusieurs choses. Alors, concernant le rapport au texte, si on part de la première question. Alors, bien évidemment, c'est en alexandrin, donc c'est une langue, François nous le disait dès le départ, et avec Frédéric aussi, c'est-à-dire, considérons-la pour nous, en premier, et puis ensuite pour le spectateur, comme une langue étrangère. Donc il faut complètement se réapproprier, retravailler. Donc il y a des règles hein, de l'alexandrin sur les liaisons, les féminines, les longues, les brèves, les diérèses, etc.
Ah, les diérèses.
Donc, voilà, donc à quel point, la métrique, tout ça. Donc à quel point on se décide à respecter ou non certaines liaisons qui parfois sont un peu mal à propos, comme on dit. Voilà, tout ça est un travail sur la langue propre qu'on a pu faire et à la table et bien évidemment directement au plateau. Avec des choix qui ont été faits de se dire à un moment donné que comme on voulait, comme François désirait que le texte apparaisse comme le plus parlé possible et surtout pas lyrique ou chanté ou voilà, donc c'était comment trouver le juste compromis dans un respect le plus grand possible, le plus grand soit-il, de tout ce travail un peu théorique et technique de l'alexandrin en l'amenant, en le rendant absolument vivant et un parler, quoi, finalement, que ça devienne la langue de ces êtres-là, parce que, comme il s'amuse à le dire à chaque fois qu'il rencontre des gens en public, François, personne à cette époque-là jamais n'a parlé en alexandrin. Je veux dire, c'est propre à l'écriture des pièces de théâtre, de ce type de pièces de théâtre. Donc voilà, donc c'est comment retrouver ce qui est censé, ce dont parlait Frédéric, de cette jeunesse, etc., qui se retrouve donc sur la place royale, qui est l'actuelle place des Vosges, qui est un endroit où il est
Paris,
bon,
hein.
À Paris, où il est bon être, de se montrer, enfin c'est un endroit branché un peu. Donc du coup, on imagine bien que les jeunes aujourd'hui qui se rencontrent, quand bien même ils seraient d'un certain milieu social un peu de la haute, comme on dit, enfin voilà, ils ne vont pas se dire, encore qu'ils peuvent, enfin je l'ai pour l'avoir véritablement entendu sur l'île de Ré d'ailleurs, des gens qui parlaient avec d'une manière, je pensais qu'on ne voyait ça que dans le sketch des inconnus, moi, mais non, il y a bien des gens qui parlent, cher ami, ce soir je vais faire un golf, m'accompagnerez-vous? Bon, il y en a quand même, ça existe, mais de manière générale, ils sont plus simples, ils parlent de manière plus simple. Donc c'était aussi à nous de trouver comment on est Alidor, Phyllis, Angélique, Cléandre, etc. Comment Lysis, Doraste, comment on les rend proches de nous, quoi, finalement. Comment on leur donne notre corps, notre voix, notre... Donc ça a été tout ce travail-là qui a été fait sous le regard attentif de François, de Frédéric, et en commun avec les acteurs. Et après sur le texte et sur, donc ça c'est sur la langue, et puis après il y a eu aussi une chose importante qu'a été, je dirais, moi quand j'ai rencontré François qui m'a proposé le rôle, donc bien évidemment il m'a parlé de la pièce, de la place royale, de Corneille, et puis tout de suite que son axe entre guillemets de lecture allait passer par un livre majeur de Dubrovski. C'est Serge Dubrovski, je crois, hein, qui s'appelle la dialectique du héros cornélien. Oui. Voilà. Et donc tout un travail d'analyse. Voilà, il pose comme point de départ, comme postulat, que tout peut s'analyser uniquement à partir du texte, qu'il n'est pas nécessaire de lui donner, d'aller chercher quelle était la vie de Corneille, quels étaient ses rapports, quelle est la politique à cette époque-là. Et c'est tout ça, elle peut être intéressant aussi, mais pour lui tout se trouve à partir d'une analyse vraiment précise et profonde de comment le texte est écrit, de sa structure, de comment les rapports à l'intérieur dramaturgique, les enjeux, les paroles des personnages, comment on les retrouve d'une pièce à l'autre, comment des choses se voyagent les unes des autres, etc. Donc c'est tout avec l'idée que Corneille n'aurait fait que travailler sur l'idée de redonner d'une aristocratie qui serait en perte de vitesse, on va dire, et qui recherche, puisqu'elle a abandonné les batailles, etc., comment elle peut retrouver ses lettres de noblesse, parce qu'elle serait un peu en décadence et tout ça. Et donc, il crée ce héros cornélien qui serait de retrouver la quintessence de cette aristocratie. Ouais. Donc, le ça a été ça, c'est, je dirais, les deux axes principaux pour nous attaquer la matière de la place royale.
J'avais une petite remarque que je me faisais à l'instant. Je vous écoute, je bois vos paroles. L'alexandrin ne serait-il pas précisément une sorte de, comment dirais-je, qu'il n'illustrerait pas cette idée de la contrainte qui permet la liberté? Parce que là, pour le coup, l'alexandrin est bourré de contraintes, les 12 syllabes, la césure éventuellement à la sixième. Mais justement, cette énorme contrainte, et puis après, il y a toutes les autres pour diérèse qui seraient, ou quoi que non, peut-être que la diérèse serait plutôt une sorte d'assistance. Est-ce que cela ne permet pas une certaine une plus grande liberté de pouvoir dire les choses de manière plus, peut-être plus, plus ramassée, ou au contraire plus, plus étendue, plus elliptique.
Je suis sûr que votre intuition est bonne, hein, puis elle se vérifie dans tous les secteurs de la création, à partir du moment où effectivement on prend conscience que l'imagination a besoin justement de rebondir, je reprends ce terme, sur des contraintes, hein, et de se fixer des règles. Il faut se dire quand même que toutes les règles de l'Alexandrin, elles ont été fixées un peu a posteriori, parce qu'à l'époque où il écrit Corneille, tout ça n'est pas encore, on n'a pas encore tout à fait conscience d'être entré dans l'âge classique et que les, il faut dire l'Alexandrin absolument de cette façon-là, que il y a des, il n'y a pas encore, vous savez, après on inventera des règles qu'on a appris à l'école, la règle des trois unités, unités de machin, etc. Oui. On n'est pas encore tout à fait là, hein. C'est après que ça va s'inventer. Mais cela dit, la versification, ça a ce rôle-là. Puis ça en a un autre aussi tout bête depuis l'origine des temps, c'est que ça permet de mémoriser. Ça crée des possibilités de mémorisation. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, quand on prend du théâtre, enfin, ou prendre autre chose, mais prendre du théâtre, on se dit, il y a deux types d'approches, en quelque sorte. Il y a des gens qui, et là, je fais le parallèle avec ce que Christophe vient de nous dire sur Dubrovski. Il y a des gens qui disent, au fond, il faut prendre le texte, je prends un acteur, par exemple, il faut prendre le texte, et puis il faut le dire, le répéter, le rabâcher, l'apprendre, sans savoir ce qu'il veut dire, enfin, entrer dedans. Et à force d'entrer dedans, au bout d'un moment, le texte lui-même va parler en nous. Et il y a des écoles de théâtre qui prône en quelque sorte cette approche-là. Et d'une certaine manière, une école de critique qui dirait, ne lisez pas ce qu'il y a à l'extérieur, prenez à l'intérieur du corpus du texte, faites-le parler. Hein, et faites parler ce qui est écrit. Alors, et c'est un peu un extrême, hein, mais et puis il y a un autre extrême qui serait, et on l'a aussi pratiqué celui-là. C'est pour ça que c'est intéressant à travailler quand on va de l'un à l'autre. On l'a aussi pratiqué parce qu'on a passé beaucoup de séances, tout simplement à prendre le texte et à se dire, non pas essayons de le dire, d'entrer, de faire entrer sa musique en nous, d'être le, en quelque sorte le médium d'un auteur qui parlerait en nous, mais essayons nous de nous dire, bon ben voilà, moi je suis là, et alors là, qu'est-ce que je dis, ah bon, qu'est-ce que je veux dire au fond, pourquoi je dis ça, qu'est-ce que ça veut dire, et là cette phrase, attends, je comprends pas, bon, d'arriver tout simplement à se dire qu'est-ce qui se passe, quel est le cheminement de pensée, quel est le cheminement du discours à travers les vers, de retrouver ce que nous on dirait si c'était nous, hein, parce que nous on parle pas comme ça, donc comment on le dirait. Et alors ça, c'est l'autre approche, c'est l'autre extrémité de la possibilité, c'est de dire au fond le texte va me permettre va être quelque chose, un véhicule par lequel je vais obligatoirement passer, ça va être une contrainte, mais qui va me permettre de dire ce que moi ça me fait.
Un prétexte.
Oui, un prétexte, en quelque sorte. Ça me fait. C'est-à-dire, moi, quand je vis ça, et alors là, c'est une autre école qui dit, ah, mais c'est l'acteur qui commence, d'une certaine manière. C'est pas que on dit, ah, voilà, j'ai tel personnage, puis il faut que je trouve l'acteur qui va rentrer dans le costume. C'est plutôt, j'ai l'acteur, et l'acteur va, je vais lui trouver le support qui va révéler sa dimension, son univers poétique, etc. Et nous, je crois qu'on s'est un peu promené entre l'un et l'autre. Tantôt, essayer de laisser s'exprimer la part de chacun, individuel, de chaque acteur que François avait choisi. C'est pas des gens qui travaillaient habituellement ensemble, des gens qui se connaissaient pas. Il a vraiment choisi des gens qu'il a mis ensemble parce que c'était des personnalités qui avaient en eux quelque chose qui lui plaisait et qui n'était pas toujours la même chose du tout, hein. Et donc il a assemblé formidablement cette distribution et en fait il leur a donné le cadre de ce texte. Mais c'est aussi eux dont il est question. Enfin, j'ai pas eu dans leur vie personnelle, hein, je veux dire, mais...
Oui, du coup, ça rejoint un peu ce que vous me demandiez sur l'histoire du bad guy, etc. Enfin, voilà. Et de la liberté, et par rapport à tout ce que raconte Frédéric, effectivement, moi, je trouve que c'est une chose très importante de qu'on ait ça en tête, parce que François l'a suffisamment rappelé, c'est-à-dire que ça fait des années qu'il a envie de monter cette pièce. Et qu'il ne trouvait pas, voilà, qu'il l'a beaucoup travaillé avec des élèves, etc. C'est une pièce qui lui importe beaucoup, mais qu'il attendait de trouver la distribution qui lui semblait être pour lui. Donc c'est quand Frédéric parle de sa part de l'acteur, etc. Et il y a aussi comme le metteur en scène. François dit qu'il n'est qu'un interprète, quelque chose, voilà, qu'il ne veut pas être, on appelle ça un créateur parfois, ou voilà. Mais je veux dire, ça veut dire que lui aussi a quand même une lecture, qu'il le veuille ou non, de toute façon comme tout un chacun, préalable, enfin sur ce texte, puisque tout à coup il y projette un certain type d'acteur et pas pas d'autre, quoi. Donc c'est qu'il a envie de faire ressortir une certaine chose de et c'est important parce que ça veut dire qu'il a un point de vue, ce qui n'est pas toujours le cas. Non mais sincèrement, donc je veux dire, il ne monte pas cette pièce pour se dire je monte un classique, voilà, etc. C'est tout à coup il a un véritable point de vue, il a entendu, il a senti, il a vu quelque chose dans cette écriture là, dans cette pièce là, dans ces rapports là humains et tout ça, et qu'il veut absolument les pouvoir les faire vivre sur un plateau. Et pour cela il voulait certains acteurs. Et aussi, il ne voulait pas des acteurs trop jeunes, parce que normalement, nous sommes malheureusement tous un peu trop vieux pour jouer cette pièce, puisqu'ils ont tous une petite vingtaine d'années, ce que, bon, nous en avons le double,
Comment ça, donc, ça ne se perçoit pas du
oui,
tout,
oui,
artifice
oui.
De la...
On a, oui, mais ça conserve le théâtre,
de la
ça
croix.
Conserve.
Non, mais ça, c'est vu de derrière la vitre.
Voilà, voilà, voilà. Mais on tourne beaucoup, on va dans plein de villes, donc du coup, on reste frais et disponible.
Pour avoir des spectateurs, j'en suis convaincu.
Voilà. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que du coup, effectivement, ça, c'est important ce dont parlait Frédéric sur cette lecture-là. Et ensuite, pour rebondir sur donc la deuxième partie de la question sur la liberté. Alors moi, bon, Alidor, c'est un personnage extraordinaire. Hein, je veux dire, c'est une partition absolument pour un acteur absolument génial et qui, pour le coup, et là encore une fois, ça rebondit avec Frédéric. Moi, j'avoue que quand François m'a proposé le rôle, je me suis dit donc on lit à travers moi autant que ça, quoi. Parce qu'effectivement, la problématique d'Alidor, voilà, moi je me sens concerné de manière très forte par cette envie de cet homme qui est pris dans l'idée de l'amour, de l'engagement, du couple, etc. Et puis tout à coup d'y perdre son autonomie, sa liberté d'être, de penser, de pouvoir vivre pas une seule et unique chose. Qu'est-ce qui est le bon choix? Est-ce que ce choix unique, ce nom ne doute pas en face Angélique, qui est jouée par Hélène Viviès, c'est-à-dire qui pour elle, c'est évident, Alidor est le bon choix, c'est l'amour unique et c'est lui qui lui apporte tout, quoi. Alors que l'autre en face, il se dit oui effectivement elle me remplit énormément. D'ailleurs elle me remplit tellement que je n'arrive plus à pouvoir vivre autre chose ailleurs, et c'est bien ce qui lui pose problème, de plus du tout avoir de capacité à être dans sa propre liberté, de son propre libre arbitre, quoi, de plus pouvoir avoir maîtrise de soi. C'est ce dont parle Dubrovski aussi, qui est tout le temps une recherche de la maîtrise de soi. Et d'ailleurs, c'est ce qui va être l'erreur, mais inconsciente d'Alidor, puisqu'en cherchant à maîtriser, il va absolument rien gagner et justement rien maîtriser. Tout va lui échapper, au contraire. Et cette notion de la liberté, alors est-ce qu'il la trouve, est-ce qu'il ne la trouve pas? A priori, non, puisque vu comment se termine la pièce. C'est un constat.
Pour rien dire quand même.
Non, je ne dis rien, mais c'est un constat. Non, mais c'est un classique. Alors ils l'ont étudié à l'école, ils l'ont vu, tout le monde connaît la fin.
On peut dire que ça se termine mal, mais qu'il n'y a pas de mort. Non,
c'est pas pour tout le monde.
Non, ça se termine pas forcément si mal.
Nous interrompons.
C'est une comédie, donc dedans, on passe sans arrêt de choses terribles à des choses plutôt joyeuses. Mais enfin, donc c'est difficile à dire.
Oui, c'est une fin un peu. C'est aigre-doux, voilà. Oui, c'est quelque chose de ce genre-là. Mais effectivement, la notion de liberté, alors ce qui est intéressant, c'est que par rapport en plus à la forme, bon, c'est un peu le cas avec toutes les pièces, mais effectivement, comme on a une forme en alexandrin qui demande à trouver sa liberté dans la manière de le dire au bout d'un moment, c'est aussi, ce qui est très intéressant, c'est que le fond et la forme nous demandent tout à coup comment trouver la liberté à tous ces endroits-là, c'est-à-dire le personnage, où est-ce qu'il trouve sa liberté ou non, comment il se bagarre avec pour la essayer de la mettre en acte, voilà, et nous avec cette forme et le plateau aussi, parce qu'on n'a pas parlé de la scénographie, mais c'est très intéressant puisque François a voulu une sorte de ring, donc on a un plateau nu. On a un carré de 6 par 6 et des petites loges sur les côtés. C'est les acteurs qui sont là, qui sont au plateau, et quand ils ont besoin de jouer, toi qui y rentres, il n'y a pas de coulisses, tout est à vue en fait, donc ça c'est super. Mais du coup le plateau aussi était dans une exigence très forte, parce qu'on n'a rien pour se raccrocher que l'autre, c'est-à-dire son partenaire de jeu, les situations, la langue. Mais alors, on n'a aucun objet, aucun truc, aucun artifice. Donc, on est.
Deux petits objets.
Il y a quelques. Oui, il y a deux petits objets. Il y a une épée. Et voilà.
Un mec qui sont déjà sur scène. Moi, je pensais une fleur et un crâne.
Voilà. Et la fleur, pour le coup, je l'utilise. Voilà.
C'est le crâne du Golgotha ou de la vanité humaine?
Voilà, c'est pour travailler sur les vanités, effectivement.
Je crains que nous soyons en train de nous perdre un peu. Alors, faisons une pause. Une pause musicale en plus qui s'impose, puisqu'il s'agit d'un propos qui revient presque un peu souvent dans la pièce, et ne serait-ce pas la fin de la pièce. Va-t'en, c'est un titre de Dominica. Est-ce que les personnages ne se disent pas tous premier plus ou moins les uns les autres? Phyllis à Cléandre lorsqu'elle oui, disons, je non, non, c'est peut-être pas va-t'en, c'est plutôt reste avec moi et laisse Doraste donc avec Angélique.
Mais enfin, toutes ces problématiques, moi je pensais pendant que notre ami Alidor parlait de tout ça, ce sont des problématiques qui n'ont pas d'âge, qui sont complètement contemporaines. Ouais. C'est que des histoires de liberté, de libre arbitre, d'aliénation, de désaliénation, de fixation d'objets, ou en termes même psychanalytiques, pseudo, hein, je suis pas spécialiste, mais voilà, absolument. Ça n'a pas vieilli. Moi, je fais la programmation musicale, j'ai eu l'embarras du choix de choisir des morceaux, parce que la chanson française, francophone, la chanson d'amour, ou les chansons d'amour, c'est 90%, 97% du patrimoine de la chanson universelle. Ça ne parle que d'amour, c'est toujours les mêmes histoires.
Oui. Alors, c'est très juste, et je pense que par rapport au fait que le spectacle fonctionne très très fort avec tous les publics depuis qu'on tourne, que ce soit quand on a joué à Paris ou en tournée, là, on a un succès incroyable. C'est vraiment, le spectacle plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et parce que je pense que c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que les gens qui viennent voir un spectacle, une écriture qui a presque 400 ans maintenant, Corneille, on a des a priori sur Corneille, mmh. etc. Et quand ils entendent l'actualité du propos sur la problématique humaine qui est de l'amour et de la liberté, voilà.
Et le n'est même pas un barrage, ça devient presque
absolument un flow
au sens actuel du flow. Ouais. Donc, des slameurs ou du rap.
Dominique.
Et on n'est pas gêné par le vocabulaire. Hein.
Dominique A, soit peut-être Dominique A Lidor ou bien A pour le A de Angélique. Enfin bref, écoutons Va-t'en. Dominique Année, bien entendu. Écoutons Va-t'en.
La prochaine fois, il faut le demander à Alexandra quand même.
Et nous continuons toujours sur Radio Canu, l'émission spectaculaire. Et vous êtes sur le 102.2 de la bande FM ou bien sur radiocanu.org.
Plutôt à son moulin qu'une eau toute noire dans laquelle on ne voit rien.
extraordinaire, ce gars.
Et ça dure encore.
Une proposition comme ça.
Ça va être un peu trop long.
Pour moi.
Nous sommes donc en train de parler de la pièce de théâtre Place Royale qui est donnée au théâtre de la Croix-Rousse actuellement. Ça a commencé le mardi 17 mars. Je n'arrête pas de confondre. Et c'est jusqu'au vendredi 27. Je trouve cela prodigieux d'un point de vue à titre tout à fait personnel. Ces longues durées qui sont données, je suis presque jaloux de ne pas être parisien plus ou moins, parce qu'au théâtre de la Cartoucherie, je crois que ça a été donné du 1er janvier, j'ai vu
du 3 janvier au 1er février.
Oh là là, incroyable, un mois plein de représentations, ça c'est magnifique. Et donc le théâtre de la Croix-Rousse, merci bien, merci à Jean Lacornerie de le faire comme ça, une fois par an. Je crois l'année dernière c'était Andromaque qui avait pareil été donné à mi-avril, du 10 au 25, enfin donc une bonne durée. Donc là, la Place Royale de Corneille est donnée de ce 17 mars hier jusqu'à la semaine prochaine, le 27 mars, pause. Dimanche, lundi, il faut quand même que effectivement les comédiens puissent se remettre de tout ce souffle pour porter les Alexandrins. Et d'ailleurs, ces comédiens, de quelle histoire parlent-ils alors ?
Alors il y a un teaser d'une minute qui montre bien l'énergie, la mise en scène très contemporaine comme on le disait à l'instant, le ring plateau très dénudé. Et pour résumer quand même l'histoire, je vais lire ce qu'il y a sur le site du théâtre de la Croix-Rousse. Donc, Ringard Corneille, ennuyeux, le scénario de la Place Royale où l'amoureux extravagant, il y a un sous-titre, prouve le contraire. Alidor et Angélique s'aiment, bien, mais Alidor préfère sa liberté au mariage. Alors quand son ami Cléandre lui avoue être éperdument amoureux de la belle Angélique, l'idée surgit qu'ils se marient tous les deux. Après tout, Cléandre est un ami, sans pareil, presque un frère, un autre lui-même. Il n'y a plus qu'à provoquer une rupture et le tour sera joué. Mais, car il y a toujours un mais, la meilleure copine d'Angélique, Phyllis, ici présente, a un frère, Doraste, qui lui aussi est épris d'Angélique. Cœur à prendre, place à prendre, tromperie, mensonge, enlèvement, trahison, coup de théâtre, fausse lettre, fausse confidence, fausse confession. Rien ne manque pour que l'aventure soit bourrée de suspense et au fond pas jolie jolie. La comédie ne finira pas bien pour tout le monde. Pour que le plaisir soit complet, il y a aussi la langue de Corneille, l'une des plus belles du XVIIe siècle. Ces alexandrins doivent être dits par des comédiens virtuoses, comme ceux choisis par le metteur en scène François Ranciac, qui, loin de toute fausse modernité, tient aussi à respecter l'époque, tout en la réinventant, comme le prouvent la scénographie, les costumes, la création musicale pour un clavecin. Rendons donc à cette Place Royale les honneurs qui lui reviennent.
Ouais, faisons-lui un triomphe.
Ouais, hein, on arrive dans la salle et les premiers vers. Alors, vous ouvrez le bouquin, par exemple, ou bien vous arrivez dans la salle et vous entendez les premiers vers. Qu'est-ce que c'est, les premiers vers ?
Angélique, scène première. Ton frère, je l'avoue, a beaucoup de mérite, mais souffre qu'envers lui, cet éloge m'acquitte et ne m'entretient plus des feux qu'il a pour moi.
Voilà, ok. Vous avez compris ?
Non ? Si, quand même. Si,
bon,
si.
Alors, on reprend. Alors, ton frère.
Je l'avoue, a beaucoup de mérite.
Bon, alors, ton frère est quelqu'un de bien, je le reconnais, hein, quelqu'un de formidable.
C'est un good guy.
Voilà.
Un
good guy.
Nice guy. Alors, mais souffre qu'envers lui, cet éloge m'acquitte.
Bon, mais accepte, sois gentil.
Que le fait de le dire, ça suffit.
Une fois que j'ai dit ça, restons-en là. Ouais. Hein.
Et ne m'entretient plus des feux qu'il a pour moi.
Et ne me parle plus de la boum, passion hein, qui
me boycotte.
Voilà, je ne sais pas comment traduire ça en termes.
Il me snob.
Il me kiffe. Non, c'est
il
ça.
Me snob. Enfin,
arrête de me dire.
Non, arrête de me dire à quel point il me kiffe.
Arrête de me saouler avec.
Ouais, arrête de me saouler. Voilà.
Arrête de me saouler.
Voilà. Alors, vous voyez, ce n'est pas très difficile.
Non, mais exactement.
Mais bon, il faut s'y habituer. Alors, au début, on plonge dans le grand bain. Peut-être que les premiers vers vont dire où je suis là. Et puis, au bout d'un moment, la température, le corps, se met à température.
Enfin, au bout de 10 minutes. Hein.
Non. Ça dépend. Il y a des gens qui, d'un seul coup, sont complètement... comme on est pris dans une transe, hein, vous parliez tout à l'heure du slam, on est pris dedans. Et au bout d'un moment, il y a des gens qui ont... moi, je pense, il y en a beaucoup, ils finissent par entendre la langue, par la comprendre. Pas tout, chacun des mots, mais on comprend tout.
Je serais peut-être moins sévère, me semble-t-il, que vous, parce que ce que vous dites, je l'ai vécu pour le texte. Effectivement, j'ai pu lire le texte, mais quand je l'ai lu tout seul chez moi... oui, c'est dans un premier temps, j'ai trouvé ça quand même assez rude. Je pensais le lire comme ça en une heure de temps, une heure et demie, en une soirée. Et puis finalement, non, j'ai laissé tomber. Je suis revenu le lendemain pour terminer. Et ça m'a bien davantage plu. Enfin, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Alors que sur scène, hier, j'étais donc présent. Je sais même pas. Enfin, je dirais que quand ça commence, ça marche tout de suite. Moi, il me semble, il n'y a même pas 10 minutes, même pas 5, ni une minute. Ça marche tout de suite. Quand Angélique arrive sur scène et commence à s'adresser donc à Phyllis pour lui dire fais en sorte que ton frère me lâche un peu la grappe. Plus ou moins, j'ai dû comprendre que c'était ça. Il m'a semblé que ça fonctionnait vraiment tout de suite. Et je sais pas, la salle ayant, m'a-t-il semblé hier, une bonne écoute, j'ai pas entendu beaucoup
de bavardages. Non, mais j'ai dit ça par précaution, pour pas avoir l'air présomptueux. Moi, j'en suis sûr.
J'avais un secret, moi, parce que c'est que j'avais lu le texte avant, j'ai pu m'entretenir avec certains spectateurs qui, en sortant, ont dit « Waouh, c'était très bien, mais alors... » la langue, c'était un peu difficile. Et je leur ai dit, ben écoutez, moi j'ai triché, j'ai lu le texte avant, et pour le coup, mais justement, alors c'est peut-être le fait de l'avoir lu, mais il m'a semblé que même sans l'avoir lu, j'aurais quand même réussi à bien comprendre, puisque enfin les choses, je ne savais pas que le texte de la Croix-Rousse était à ce point bien ciselé et disait bien les choses. La distribution est prodigieuse, on pourrait tous les citer.
Ah ouais, 53 pages, c'est pas si long que ça.
Ah mais même en prenant le temps, Hélène Vivier, en prenant le temps, parce que c'est tous des gens formidables.
Hassan Timbo, et puis j'oublie l'Isis, Antoine Sastre. C'est incroyable, c'est un spectacle
Nicolas
que j'ai trouvé
aussi.
Mais prodigieux pour ce qui est de pour ce qui est
Nicolas
du texte.
Nicolas Santi,
je l'oublie.
Et Hélène Viviès dans le rôle d'Angélique, qui est pas avec nous. Tout le monde peut pas être là aujourd'hui à la table là, mais toutes les deux là, ensemble, Linda Chaïb et Hélène Viviès, ça dépote dès le départ. Hein.
C'est une équipe de 6. Alors bon, normalement, Gérald le sait, j'aime bien le football. Le football, ça se joue à 11, mais je crois qu'il y a un sport qui se joue à 6. Non, c'est quoi? C'est le volleyball. Et alors là, pour le coup, peut-être l'Alexandrin serait ce ballon qui voyage d'un camp à l'autre. Non, c'est vraiment la distribution. Enfin, François Rancillac, certes, d'énormes, d'incroyables talents de metteur en scène, mais alors aussi un nez pour caster, pour faire
ses
distributions.
C'est quelqu'un qui va au théâtre, mais d'une manière intensive, mais depuis des années, qui a une attention aux acteurs, mais incroyable. C'est-à-dire, il les connaît. Avec chacun, il a un rapport particulier. C'est quelqu'un qui est vraiment amoureux des acteurs, qui fait des distributions. Souvent formidable. Alors, et il a réuni des gens. Je suis surpris rétrospectivement de pas assez les avoir connus avant. Enfin, il y en a certains que je connaissais un petit peu, mais franchement, j'étais surpris. Je me dis, et je connaissais pas ces gens-là. Voilà.
C'est donc lui, l'amour extravagant, le sous-titre de la pièce, c'est François Rancillac qui montre, oui sûrement, un bel amour pour ses acteurs, puisque chacun en plus, alors ça c'est peut-être davantage le texte de Corneille, mais chacun me semble-t-il a son moment de seul sur scène avec les projecteurs et le public en face, et oui je pense à Doraste, quoique Doraste c'est peut-être le moment le plus court pour
lui, il a une évolution insensée, mais il n'arrête pas de lui arriver des choses, mais il n'a pas de moment où il se pose vraiment longtemps pour nous dire ce qu'il ressent.
Cléandre, c'est le cas.
Parce qu'il n'a pas le temps de respirer.
Alors, Phyllis, c'est le cas aussi. Ouais. C'est le cas pour Alidor, c'est le cas pour Angélique. Et ces moments-là sont absolument terribles. C'est Hélène Viviès et donc vous, Christophe Lapara, ça doit être rude quand même. Parce que je demanderai ensuite, dans quelques instants, à Linda Chaïb, comment faire pour apporter cette touche de, vraiment, j'ai trouvé, de fraîcheur, de comédie, de pétulance, de 60s aussi, j'ai trouvé un peu. Mais pour cette gravité, enfin, c'est rude quand même, la fin de la pièce pour vous. Et puis également, je crois que c'est la fin de l'acte 4, où quand vous voyez Angélique réapparaître alors que normalement elle ne devait pas. Enfin, vous êtes venu avec une écharpe tout à l'heure, je me suis demandé si votre voix avait été un peu prise. Non, peut-être pas trop, mais est-ce qu'il y a d'autres organes, la tête, ça, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Oui, vous disiez, vous reconnaître un peu dans. Enfin, craindre qu'on vous reconnaisse dans Alidor.
Oui, non, oui, ça. Mais c'est. Alors après, sur le fait que ce soit éprouvant ou effectivement, ça demande un grand engagement physique. Et puis voilà, mais en même temps, c'est passionnant de jouer des rôles qui ont cette demande, cette palette-là de variations dans les sentiments, dans le fait de passer d'un état à l'autre comme ça extrême, parce que c'est ça qui est très beau chez Alidor, c'est qu'il passe d'un enthousiasme à un moment donné un désespoir en une seconde. Il imagine que son plan va fonctionner, alors ça le remplit de bonheur, de joie, d'espoir, et puis tout à coup il se rend compte que non, en fait il s'est complètement perdu lui-même, il a raté son coup, donc ça le ramène à une désillusion et une tristesse, voire une colère, une amertume. Mais c'est au contraire, moi c'est quelque chose qui me au contraire de me fatiguer. Le rôle au contraire me donnerait encore plus de tonus et d'énergie, parce que je trouve que voilà, c'est moi je pense vraiment que j'aime faire ce métier là pour des textes comme ceux-là, pour des rôles comme celui-ci, parce que ça va chercher dans l'âme humaine, ça va chercher sur qu'est-ce que c'est que d'être au monde, qu'est-ce que c'est que d'être un homme. On travaille, moi je me dis tout à coup chaque soir quand même c'est génial, j'ai réussi à quand même, parce que j'ai envie depuis quelques années à faire un métier pour lequel je, en fait, je dis des mots magnifiques. Je suis dans la pensée, dans la littérature, dans la poésie, dans de proposer quelque chose qui essaye de dire aux gens, voilà, de leur donner un moment de réflexion, d'humanité, d'amour même. Je trouve que c'est quand même une chance extraordinaire et d'avoir un parcours comme celui-ci d'Alidor. Moi, j'ai eu la chance de traverser Macbeth ou de traverser Don Juan, des personnages comme ça. Ils permettent d'avoir un recul avec soi, c'est-à-dire qu'on peut réfléchir sur soi aussi à partir d'eux. C'est ça qui est extraordinaire, de pouvoir avoir un recul sur soi-même, quoi. Et moi, je trouve que du coup, loin de m'éprouver. Alors après, il y a le travail en répète qui dirait presque le travail en répète est presque plus éprouvant que le travail en représentation, parce que ça demande, on cherche beaucoup, ce qui se continue à être le cas d'ailleurs après en représentation, mais de manière différente. Mais moi, par exemple, je dormais quasiment plus quand on a fait les répètes. J'en étais arrivé à 4 heures ou 6 heures de sommeil par nuit maximum. Et parce que, par contre, le travail, le texte, la recherche d'essayer d'être au plus juste de ce que demande cette partition et de ce que voulait François, etc. Je veux dire, moi, j'ai une telle exigence avec moi que je me pardonne rien. Et du coup, je peux me faire un peu souffrir, genre pas corporellement, hein, mais je veux dire, psychologiquement, en tous les cas, pour arriver. Pour moi, ce n'est pas possible de ne pas réussir à faire ce que demande un metteur en scène. Je suis censé avoir travaillé un instrument comme un musicien. Moi, c'est mon corps, c'est ça. Et je suis censé pouvoir lui donner ce qu'il attend. Voilà. Et si j'arrive pas, c'est quelque chose qui me fâche beaucoup avec moi-même. Donc voilà, moi, c'est plus à la rigueur ce moment-là de répétition qu'après en représentation, où chaque jour, au contraire, moi, je suis de plus en plus heureux parce que je sens que mon travail progresse, évolue, avance, s'affine.
Pour moi, c'est un
bonheur parce que je suis de moins en moins dans le faire. Et de plus en plus dans le laisser faire. À un moment donné, je me dis, voilà, c'est, à un moment donné, j'étais à la recherche, j'étais derrière, je courais un peu après Alidor. Et maintenant, il est là. Et je peux le laisser exister, quoi. Et j'ai pas de crainte de ne pas l'avoir trouvé, de pas l'avoir saisi. Après, j'ai encore plein d'endroits à affiner, mais avec plus de, avec une relation presque plus apaisée avec lui, quoi. Ouais.
Bien, cela fonctionne, et il me semble que ça fonctionne également avec Linda, qui est Phyllis. Savez-vous que Linda est notamment un prénom portugais, ça signifie belle, donc belle Phyllis. Et vous, ce personnage alors, qui est donc peut-être beaucoup moins, enfin pas tragique, parce que... Voilà, on le dit, il n'y a pas de mort.
Mais il est beaucoup moins épuisant, par exemple, que le personnage d'Angélique ou d'Alidor.
Il y a quand même quelque chose, hein, dans
votre... Oui, mais il demande beaucoup moins d'énergie, quand même. Parce que, par exemple, si je prends le personnage d'Angélique, qui est quand même un personnage qui est constamment ballotté, tout le temps. Alors que Phyllis, elle arrive avec une énergie, elle va la tenir jusqu'au bout, même si elle va vaciller en dehors. Parce qu'on la voit pas, on la voit jamais vraiment vaciller. Peut-être qu'à la toute fin, on a donné un peu ça à voir. Peut-être que le choix qu'elle fait est peut-être pas si heureux. Enfin,
juste au moment
je me réserve
aussi,
ça.
Il y a le moment de l'enlèvement aussi.
Il y a l'histoire de l'enlèvement. Alors là aussi, je me dis c'est bizarre. Enfin, moi, je crois que j'ai pas tout résolu avec Phyllis. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec ces textes-là, comme on n'a pas tout résolu, il faut continuer à chercher. Sinon, on s'ennuie. Donc voilà, mais pour dire, pour l'espèce d'énergie, je suis quelqu'un qui a de l'énergie, tant mieux, c'est bien, j'espère que je vais le garder longtemps, mais pour avoir travaillé des personnages plutôt dramatiques, quand on sort d'un personnage dramatique, c'est beaucoup, c'est énorme ce qu'on donne, ce que ça donne. Alors qu'un personnage qui rentre avec une énergie et qui la tient jusqu'au bout, ça demande moins, ce qui ne veut pas dire qu'on n'en donne pas, mais on donne moins.
On dit que c'est toujours dur le comique, la comédie, faire rire, et là vous réussissez, là je pense comme ça, ce détail, le geste que vous avez, un des gestes, vous remettez votre robe de soirée, enfin voilà, il y a tout un tas, et c'est des choses, il y a un rythme, il ne faut pas manquer, et ça marche très bien aussi.
En fait, c'est des choses qui sont venues tout doucement, parce qu'en fait, ce que je trouve intéressant avec François Rancillac, par exemple, pour avoir fait 3 spectacles avec lui, François, ce qui l'intéresse avant tout, c'est les textes.
Vous le connaissez, alors.
Oui, on a fait 3 spectacles ensemble. Donc, c'est les textes. Et quant à l'apprentissage, par exemple, de ce texte-ci, moi, je suis plutôt quelqu'un qui va essayer d'apprendre un texte sans avoir d'appréhension dessus, ni de couleur, même si je me freine. Je veux pas avoir. Parce que sinon, j'ai peur d'y mettre trop de moi, et puis ensuite, pour courir vers le metteur en scène, ça va être difficile. Sauf qu'avec le texte de Corneille, qui pour moi était une langue étrangère, mais complètement étrangère, je l'ai lu un milliard de fois pour essayer de comprendre ce que j'avais à dire déjà. Alors, c'est vrai. Et même parfois, en jouant, j'ai l'impression que ça m'échappe parce que je trouve encore qu'il y a des phrases qui sortent, qui sont tirées ailleurs. Mais en même temps, il y a un sacré miracle. Moi, j'ai une petite nièce qui est venue voir le spectacle, qui ne va jamais au théâtre, qui ne lit pas, qui n'a aucune... Non, mais c'est important.
Et qui s'en va.
Elle a 13 ans. Ouais. Non, elle sort et elle dit « Oh, alors là, Linda, je n'ai pas compris le texte, mais j'ai compris toute l'histoire. » Eh bien, non mais voilà, c'est ça. Mais ça raconterait presque ça aux acteurs. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui... Au bout d'un certain temps... Voilà, les fenêtres s'ouvrent et on sort.
Il ne faut pas effrayer tout le monde. Hein, déjà moins difficile que si c'était en anglais.
Avec des sous-titres. Les surtitres.
Non, mais c'est... Voilà, c'est... En même temps, voilà, c'est un peu miraculeux.
C'est relatif qui est chiche, non ?
Pour le coup... Moi, ça me gêne. Je ne voudrais ni faire le vil flatteur, ni faire le méchant, mais il me semble qu'au tout début, donc Angélique prononce les trois alexandrins qu'a lu tout à l'heure Gérald, et il me semble trois, peut-être six, non ? Mais guère plus.
Trois.
Donc voilà, je me suis dit, ça marche tout de suite. Et puis ensuite, en vous écoutant, Linda, puisque c'est vous qui donnez la réplique, Phyllis est donc présente avec Angélique, j'ai trouvé que c'était encore mieux, et à nouveau quand Angélique a pris la parole, je me suis plutôt rendu compte que c'était des alexandrins. Enfin, ce que je veux dire, c'est que quand vous avez récité vos différentes, votre réplique, il m'a semblé que c'était un alexandrin qui était simple, qui était normal, qui coulait de source, qui allait de soi tout simplement, tout normalement, et j'ai trouvé ça vraiment génial de pouvoir rentrer dans le texte aussi facilement que ça. C'est absolument effrayant, chers auditeurs, je vois pas ce qu'elle arrivait. Alors ce que je vais faire, c'est que nous souhaitions tout de même écouter un peu de Théophile Deviau. Là, pour le coup, peut-être la langue est-elle aussi étrange. C'est Marie-Nicole Lemieux qui chante cette chanson, je crois, de Reynaldo Hahn. Reynaldo Hahn, je crois, début du 19e siècle, il me semble. C'est un peu assez ancien. Et le texte, en revanche, est bien tiré de Théophile Deviau.
Et Théophile Deviau, on n'en a pas dit tout à l'heure le mot, c'était le début du libertinage, la préciosité. Voilà.
Ce qu'on a appelé le libertinage au départ, hein. C'est donc le libertinage au départ, c'était pas coucher avec tout le monde n'importe où, n'importe comment, c'était
l'indépendance d'esprit.
Voilà, c'est surtout ça.
Individualiste.
Oui.
Et puis le début de l'athéisme aussi, peut-être.
Et l'athéisme,
et puis,
oui,
la remise en cause du pouvoir royal.
Vraisemblablement, Théophile de Fouque.
La monarchie absolue.
Oui, absolument.
C'est des rebelles de l'époque, en fait.
Absolument.
Le blues ne serait-il pas une histoire de rébellion éventuellement ? Je ne sais pas. Tout ça, c'est pour dire que le blues des canuts va commencer. Mais en fait, Pascal s'est à nouveau échappé. Donc le blues des canuts n'est pas tout de suite. On va d'abord écouter Reynaldo Hahn. Et puis ensuite, oui, je crains, Gérald, que ce soit la fin d'émission. Vous parliez d'anglais tout à l'heure. Pour le coup, je crois que différentes personnes pourront témoigner. Des Lyonnais, il y a un festival d'opéra ces jours-ci qui est chanté, Gérald, en italien. Toi, tu y vas ce soir, Orphée et Eurydice.
Oui.
Il y a également italien à 20h. Il y a aussi Sunken Garden, le jardin englouti de Michel Van der A, qui est donné au TNP. Il y a des comptes rendus qui sont sur le blog de Spectaculaire, qui est donné en anglais. Et puis troisième et dernier opéra qui est donné en allemand, Les Stigmatisés, Die Gezeichneten, je crois, de Franz Schreker. Donc voilà, ça fait trois langues différentes. Il y a beaucoup de musique. Si vous souhaitez entendre du français, allez plutôt au théâtre de la Croix-Rousse pour entendre donc.
Enfin, pour ceux qui n'ont pas réussi à avoir des places pour la place royale.
Voilà. Parce que je crois qu'il en reste.
En reste-t-il.
Finalement,
ce soir,
la seule coloration
plus, disait,
des
bord de
le
scène
clavecin,
ce soir.
Le clavecin.
Ouais. Il y en a un petit peu. Ah non, bord de scène. Ou un bord de scène aura lieu un autre
le
jour.
Le clavecin est 17e, le clavecin. Ouais.
Le clavecin qu'on entend.
Il est très 17e ou
Non, il a pris. Il y a différents morceaux qu'il a pris de diverses époques et donc des morceaux contemporains au clavecin. D'accord. Mais il n'y a que du clavecin.
Encore c'est un bon choix minimaliste pour laisser.
On est en train de faire une acrobatie incroyable pour entendre ce Théophile.
Écoutons Théophile Deviau, et puis voilà. Si, ça a marché.
Tu m'aimes, mais j'entends.
Et voilà, auditeurs, c'est la fin d'émission. Gérald y tenait, donc oui, nous allons le faire. Nous allons dire au revoir à tout le monde. Au revoir Frédéric, et merci.
Bonsoir, au revoir. Oui.
au revoir Linda, et merci. Merci bien de votre présence, et au revoir Christophe. Merci beaucoup pour nous avoir permis, en plus d'entendre cette chanson de Reynaldo Hahn, à Chloris.
Avec un fonctionnement spécifique, j'ai envie de dire, au sein de Traboulescope, il y a une dizaine de bénévoles. Un gros merci à vous tous de nous soutenir depuis la création.